France Musique.
Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï.
France Musique, Enrico Macias, Enfant de tout pays, Virginie Bloch l'aîné.
Qu'est-ce que lui m'a dit, qu'est-ce que j'ai passé, où j'ai fait tout le monde, y'a ibad Allah. M'ktoub, m'ktoub, fidj bin rassi, fidj bin rassi.
Nous n'avons pas oublié les racines que nous avons laissées là-bas. Mais nous n'oublions pas aussi que nous avons apporté quelque chose. Nous avons apporté notre façon de vivre, notre façon de nous faire aimer, notre façon de manger aussi, parce que le couscous et les merguez, c'est important quand même. Hein. Et aussi, nous avons apporté nos traditions, nos coutumes. Et moi, j'ai la chance d'avoir hérité de la musique de mon père.
Premier volet, Orange amère.
Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues des champs déserts, toute la ville perd le nord. Dans une sieste à ciel ouvert, avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme. Et sous le voile d'une moustique, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu les noyaux d'abricot. Le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son camp, l'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères.
Bonjour Enrico Macias.
Bonjour.
Cela fait une soixantaine d'années que vous êtes reconnu à la fois comme un chanteur populaire et comme une icône culturelle. Vos chansons se sont imposées au début des années 60, alors que la mode était au yéyé. Vous nagiez à contre-courant. Vous remplissez les salles de concert, vous faites chanter et danser les salles, ce que beaucoup d'autres chanteurs français, à l'époque, lorsque vous avez débuté, refusaient de faire. Vous chantez en français, mais aussi en hébreu et en arabe. Vous êtes une icône culturelle et même un morceau de l'histoire de France, parce que, et nous en parlerons aujourd'hui, vous êtes juif, né à Constantine en 1938, donc en Algérie. Et vous écrivez dans vos mémoires que vous avez grandi dans un pays qui n'existe plus. Une Algérie où des personnes de religions différentes s'entendaient et formaient un même peuple. Vous êtes arrivé précipitamment en métropole en 1961, après l'assassinat de votre maître en musique judéo-arabe andalouse, qui était également votre beau-père, Raymond Léris, cher Raymond. Il a été tué en pleine rue le 21 juin 1961. Ce fut un avertissement pour tous les juifs de Constantine. La coexistence entre juifs et musulmans en Algérie était terminée. Cet assassinat, capital dans votre parcours, a eu des répercussions culturelles et historiques importantes. Ce meurtre déclarait une rupture, quelque temps avant l'indépendance de l'Algérie. Et la musique arabo-andalouse en Algérie s'est progressivement éteinte, faute d'être transmise. En devenant célèbre, vous avez représenté les rapatriés d'Algérie. Mais nous verrons au cours de cette série que cette identification a connu des variations et même des accrocs. Ce que vous incarnez a évolué en même temps que les relations judéo-arabes et franco-algériennes. Vous n'avez jamais mis de côté votre identité juive, malgré des tentatives d'intimidation. Votre enfance et la culture dans laquelle vous avez baigné seront les thèmes de notre première émission, que j'ai intitulée « Orange amère », reprenant le titre de l'une de vos chansons. Ce titre renvoie à Constantine, aux paysages, aux climats orientaux, mais aussi au drame qui s'y est déroulé. Chacun de nos entretiens sera ponctué d'archives et bien sûr de chansons, les vôtres, mais aussi celles des chanteurs qui vous ont inspiré, celles de vos contemporains, celles de vos amis. Avant de vous interroger sur votre enfance, Enrico Macias, je souhaitais avoir un commentaire sur une formule que vous utilisez dans vos mémoires, l'envers du ciel bleu. Vous racontez que l'une de vos belles-sœurs constantinoises s'est mariée avec un juif ashkénaze d'origine polonaise. Vous arrivez à la fête du mariage et vous voyez les Constantinois d'un côté, les Polonais de l'autre, et vous écrivez « Et là, j'ai fait quelque chose de très Enrico ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Être très Enrico dans une telle situation?
J'ai rassemblé les deux familles. Je ne supportais pas cette isolation. Et je voulais que les deux familles soient unies grâce au mariage. Et donc, je voulais vraiment marier pas seulement les futurs époux, mais aussi les deux familles, Ashkenaz et Sepharad. Vous savez, moi, j'ai jamais fait de différence entre les séfarades et les ashkénazes. D'ailleurs, ma judaïté a été exacerbée par ce qui est arrivé aux ashkénazes pendant la Shoah. Parce que quand j'avais 10 ans, j'ai été voir un film qui s'appelait Le ghetto de Varsovie. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelle était mon identité.
Donc en 48.
Oui,
en 48, oui,
voilà.
Et ça a pris, ça a marché, les deux familles se sont mêlées et...
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Elles ont discuté ensemble, oui. Et tout ça. Oui. Mais je ne supporte pas ce genre de rupture, oui. Quoi. Qui est un peu prévu à l'avance, mais qui... Et moi, j'ai un peu cassé ça.
Chemins défendus peuvent mener à Rome. Les jours suivant les jours conduire au temps perdu. L'eau des ruisseaux qui rit de l'oubli des hommes. Rejoindre un jour la mer monotone. Mais toi mon cœur tu voyages vers le rocher sauvage qui te fascine, Constantine. On emmène avec soi ses plus grandes richesses, la forme d'un amour au bout de ses 10 doigts, la poudre d'or de quelque ancienne promesse et quelques larmes sur sa jeunesse. J'ai gardé les chansons vives de tes flûtes naïves en sourdine, Constantine. Constantine. On part à cœur perdu, avec la faim dans l'âme, de matins lumineux, de villes inconnues. Au bout c'est le désert et ses matins calmes, le sable ou bien les bras d'une femme. Entre le ciel et la terre, tu as tes ponts de pierre sur tes abîmes, Constantine. Tu ne peux échapper aux bras de tes ravines, et comme elle je tiens mon amour bien serré, quand elle est là tranquille sur ma poitrine, je pense à toi plus fort, Constantine. Je pense à toi plus fort, Constantine.
Est-ce que vous pouvez, Enrico Macias, décrire, pour quelqu'un qui n'y a jamais été, qui n'a jamais vu de photo, la ville de Constantine ?
Constantine, c'est une ville très caractéristique. Je crois que c'est la plus caractéristique de toute l'Algérie. Lors de la première colonisation des Romains, les Romains ont été obligés de construire des ponts parce que Constantine a été construite sur deux rochers reliés par des ponts pour pouvoir accéder d'un rocher à l'autre. Donc, c'est une ville qui est coupé en deux, mais relié par des ponts. Et on appelait ça le pont suspendu, le pont de Sidi Rached, le pont... Tous les ponts permettaient d'accéder aux différents quartiers de Constantine.
Et les ravins sont vertigineux, j'ai vu des photos.
Alors, à Constantine, on était habitué au vertige. D'ailleurs, moi je suis né dans une rue qui donnait sur le boulevard de l'Abîme. Ça s'appelait comme ça. Et l'abîme, c'était quelque chose de vertigineux. Parce que il y a même beaucoup de gens qui se sont suicidés ou qui ont été tués en les jetant du pont dans le Rumel.
Oui.
Le Rumel qui était le fleuve qui arrosait Constantine, en bas de l'abîme. Voilà, c'était tout simplement ça.
Quand les parents avaient des amis, les enfants, même s'il n'y avait aucun lien familial proche ou lointain avec ses amis, les enfants les appelaient tonton et tata. Hein, c'est vraiment tout de suite, on est dans le groupe familial. Bon, l'autre qui est proche, c'est un membre de la famille. C'est pas un étranger, ça ne peut pas être un étranger. Bon, et puis ces liens sociaux très très forts se manifestaient sous différentes formes. Mon père me racontait que tous les samedis, par exemple, en sortant du temple, tous les amis du temple allaient tour à tour dans toutes les maisons pour prendre la kémia avant de rentrer chez eux. Bon, ce qui faisait pas plaisir d'ailleurs après, par exemple à ma mère, parce que quand mon père arrivait, il mangeait plus rien, il avait plus faim. Mais tous les hommes allaient prendre la kémia chez tous les amis du quartier juif. Bon, la même chose aussi quand il y avait un deuil dans la communauté. C'était pas seulement un deuil dans le temple, mais dans la communauté, il y avait une délégation de 3-5 personnes, je crois, de chaque synagogue. Et je vous ai dit qu'il y en avait à peu près une vingtaine qui allaient représenter la synagogue pour présenter les condoléances, suivre le cortège funèbre de la famille qui avait perdu quelqu'un. Bon, donc c'était vraiment des liens très, très, très intenses. Et je crois qu'ils étaient favorisés par cette espèce de société close, en fait, qui était la société constantinoise.
Je me demande qui parlait.
C'était Joël Alouche Benayoun, qui est sociologue, et c'était en 1990.
C'est bien décrit.
Oui.
C'est très vrai ce qu'elle a dit. Je me suis retrouvé dans ce qu'elle a dit.
Vous êtes né à Constantine, donc vos deux parents étaient installés à Constantine, et vous alliez très souvent chez vos grands-parents à Gemap.
Alors, je vais vous expliquer. À Constantine, on habitait... Moi, j'habitais avec mes parents, avec mon pauvre frère, et puis aussi avec mes grands-parents. Ils avaient leur chambre. Mais au début de la semaine, avant le Shabbat, ils avaient un commerce à Gemap, tout près de Philippeville. Et ils faisaient des allers-retours entre le Shabbat et puis le début de la semaine. Vous voyez? Et c'est... J'ai passé toute mon enfance avec mes grands-parents. Ce sont eux qui m'ont élevé. Ma mère et mon père aussi, mais plus mes grands-parents. Mes grands-parents ne parlaient pas très bien le français. Ma grand-mère savait à peine lire, et tous les matins, elle lisait la dépêche de Constantine en français à mon grand-père. Quand il faisait la grâce matinée, parce que quand il venait à Constantine, c'était un petit peu comme des vacances pour eux.
Et vous baignez dans la musique ?
Ah oui, alors la musique, c'est d'abord avec mon grand-père, parce que mon père rentrait très tard le soir. Et en l'attendant, mon grand-père jouait de la flûte, mais il n'était pas professionnel, c'était en amateur. Et moi, je l'accompagnais avec la mandoline, j'avais une mandoline à l'époque, pas encore la guitare. Et quand j'étais donc tout petit, tout jeune, je jouais avec mon grand-père, en attendant mon père.
Juifs et musulmans, à ce moment-là, elle était bonne, ça se passait naturellement.
Elle était très très bonne. Moi, j'avais des amis musulmans c'était comme des frères pour moi, comme des frères. Pour le Ramadan, moi je me rappelle, on sortait ensemble, et puis pour nos fêtes à nous juives, ils venaient chez nous. Et les chrétiens aussi, on s'entendait très très bien, les trois religions. Le seul défaut qu'il y avait, c'est que il y avait un quartier juif, un quartier chrétien et un quartier musulman. Mais moi, j'ai eu la chance de naître, d'où un petit peu ce qui s'est passé par la suite dans ma vie, de naître dans un quartier cosmopolite. Il y avait des juifs, des chrétiens et des musulmans dans ma rue, dans mon quartier. Par exemple, j'allais au magasin de mon père et de cher Raymond, de tonton Raymond, et c'était dans le quartier juif.
Alors, on va en parler du magasin de votre père et de cher Raymond. Avant de devenir un musicien professionnel, votre père était comptable. Il avait fait...
Chef comptable. Et puis, il a eu la passion de la musique et il jouait du violon à merveille. Il a commencé par du classique parce que dans l'immeuble où on habitait, la fille de la propriétaire était professeure de musique et de violon d'ailleurs. Et mon père prenait des cours avec cette femme et donc il lisait très bien la musique. Il a commencé par faire du classique. Puis après, il a eu la passion de la musique arabo-andalouse.
On va écouter votre père. On a une archive avec la voix de votre père.
Avec plaisir.
Dans le temps, les Turcs avaient occupé tout l'Orient, l'Asie, l'Orient, et ils sont arrivés en Espagne, et de l'Espagne, ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Ils ont été refoulés parce que les Espagnols ont compris que les Turcs étaient très épris de musique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés en Italie et ils ont rapporté presque un bateau plein de violons. Les Espagnols ont rapporté ces violons et ils ont vu que le violon était en bois et tout, bien fait et tout, et ils remplaçaient le rebeb, ce qu'on appelle le rebeb. Et ils ont distribué tout ça à la population. Ils étaient tellement épris de musique et tout, les autres, ils ont fait une révolution, ils ont pu les posséder grâce à ça. Et ils les ont refoulés. Et lorsqu'ils ont été refoulés, ils ont été refoulés au Maroc espagnol. À Tanger, Maroc espagnol, le Maroc. Et en Oranie, en Algérie, dont Constantine faisant partie, et la Tunisie. Dans le temps, les compositeurs ne faisaient de la musique que pour les rois et les empereurs et tout les deys, les beys et tout cela. Et ils ont obligé ces gens-là, les compositeurs, à faire de la musique de bouche à oreille pour pouvoir instruire les gens parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour faire des études telles que chez nous maintenant, les écoles et tout ça, il n'y avait pas. Mais grâce à cette musique qu'ils introduisaient dans l'oreille, par la bouche, ils mettaient certaines philosophies de conduite dans les paroles.
C'est bien ce que j'entends, mais c'est pas du tout la voix de mon père.
Ah. Alors, je vois votre fils derrière qui fait oui, 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 oui. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun doute pour votre fils. Aucun doute que c'est votre père. Et on a même une autre archive où votre père dit qu'il a abandonné son métier, que sa femme n'était pas contente.
Mais ça, oui. Mais ce que je viens d'entendre là, c'est pas du tout la voix de mon père. Je suis désolé.
Comment est-ce que vous êtes devenu musicien ?
Eh bien, moi, j'étais chef comptable. J'étais diplômé des hautes études Pigier. Et puis, quand j'ai rencontré le père de Suzy, qui est Raymond, j'ai entendu cette musique. Elle m'a tellement surpris. J'étais dans un état vraiment... J'étais plus presque moi-même. J'ai rien à faire après cette musique. Il n'y a plus rien. Et comme j'étais jeune, mon père jouait de la flûte. J'avais ça dans l'oreille. Quand j'ai entendu le pauvre Raymond, ça m'a surpris. J'ai tout abandonné. Même j'ai eu des problèmes avec ma femme. Elle m'a dit, comment tu quittes la musique, tu quittes la comptabilité? J'étais voyageur de commerce et tout. Et tu vas faire ça? J'ai dit, oui, je ferai ça à n'importe quel prix et je le ferai quand même. Et j'ai accepté à faire et j'ai évolué là-dedans. Voilà.
C'est Raymond qui vous a appris?
Oui, c'est Raymond qui m'a appris. Raymond était le grand maître de la musique orientale à Constantine, et c'était l'idole des musulmans. Vraiment l'idole, puisqu'il a été des musulmans et des israélites, et des hébreux de là-bas. Et ils le regrettent aujourd'hui, puisqu'ils vont sur sa tombe, et ils allument sa tombe comme si c'était un saint. L'erreur. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a fait ça. Ce n'est pas ceux qui ont demandé l'indépendance de l'Algérie. Ce n'est pas eux. C'est des gens de la rue, des fous, c'est tout. Pour dire, voilà, on a fait un acte. Mais Raymond était adoré par tous les Arabes. Et jusqu'à maintenant, j'ai des contacts avec eux qui viennent me voir et tout. Je leur donne des soirées pour eux, des amis. Ben, ils adorent Raymond, ils se mettent à chialer pour lui. C'était un très très grand maître.
Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Je me rappelle même de cette musique, moi. Je l'ai joué avec mon père et l'orchestre. Alors, je vais un peu résumer ce qui s'est passé. C'est que mon père avait un orchestre. Et puis, tonton Raymond, quand il a entendu mon père, a demandé de venir jouer avec lui. Et il a engagé des musiciens qui étaient eux-mêmes des chefs d'orchestre.
Et c'est devenu un orchestre professionnel.
Devenu un orchestre de musique arabo-andalouse, de musique classique algérienne, au plus haut niveau. Le plus haut niveau, vous vous rendez compte, c'est comme si Mozart jouait avec Beethoven. C'était merveilleux.
Est-ce que c'est Cher Raymond qui chante?
Ah, c'est lui qui chante, bien
d'accord,
sûr.
D'accord.
Et c'est lui qui jouait du luth, aussi. Et c'est lui qui dirigeait tout l'orchestre avec son luth et son chant, le chant, quoi.
Et c'est une musique où la part d'improvisation est grande.
Ah, alors, je vais vous expliquer. Le début, c'est une improvisation de chaque instrument dans la gamme de la musique qu'ils allaient interpréter. Ensuite, il y avait une entrée, une sorte de pont musical qui amène vraiment la chanson elle-même. Puis après, c'est la chanson. Et puis après, il y a aussi la fin du morceau, c'est la fête. C'est ce qu'on appelle le final, quoi. Malouf, c'est un boomerang entre le folklore constantinois et, par la suite, le folklore arabo-andalou. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'Andalousie, il y a eu un boomerang qui a donné naissance au flamenco. Mais la musique arabo-andalouse existait déjà avant l'époque de l'Andalousie.
Et c'est une musique très codifiée, très sophistiquée.
Comme de la musique classique. Comme de la musique classique, mais qui ne s'apprenait que oralement. Comme l'a dit mon papa tout à l'heure. Oui. Bon, c'est vrai que c'est une musique très sophistiquée, très pointilleuse, très rigoureuse. Moi, je me souviens des répétitions avec Cher Raymond. C'était vraiment fantastique, quoi. C'est comme si on lisait une partition, mais nous, on l'apprenait oralement. Et on avait des points de repère rigoureux.
Et c'est parce qu'elle se transmettait oralement qu'elle a pu se perdre aussi et qu'il faut trouver les bonnes personnes pour de nouveau la transmettre.
Oui, mais par exemple, il existe des enregistrements de Malouf, de plusieurs chanteurs, mais surtout de Cheikh Raymond et de mon père, et puis même de moi, parce que j'ai quand même rendu hommage à mon beau-père. Et j'ai repris le répertoire de Tonton Raymond. Je me rappelais bien des musiques, mais pour les textes, comme je n'avais jamais chanté devant Cheikh Raymond, et à l'époque je ne chantais pas cette musique, je la jouais simplement.
Habibi,
Vous y êtes venu progressivement, vous faisiez de la guitare, il n'y a pas de guitare dans le Malouf. Au moment de votre bar mitzvah, en 1951, je crois que votre père vous dit « peut-être demain tu pourrais jouer devant Cheikh Raymond ». Et
ah
vous
oui.
êtes...
C'était à l'occasion de la bar mitzvah de mon pauvre frère.
Ah, c'était celle de votre frère, c'était pas la vôtre.
Oui, c'était mon pauvre frère. Et mon père qui était... réticent à l'idée que j'en fasse un métier de la musique, j'étais surpris moi-même, dit à tonton Raymond, tu sais, le petit, pour moi, il joue de la guitare, il va jouer devant toi. Gaston, prends ta guitare et joue. Moi, j'étais impressionné. Comment je vais jouer devant ce monument? Même devant mon père, hein, je n'osais pas trop. J'ai joué. Et tonton Raymond m'a dit, à la fin, viens me voir au magasin demain. Et le lendemain, j'ai été au magasin, mais j'ai pas emmené ma guitare. Et il me dit, mais tu n'as pas emmené ta guitare, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, mais je savais pas. Bon, il me dit, c'est pas grave, il y a un luth ici. Tu vas jouer avec le luth. Mais je lui dis, j'ai jamais joué du luth. Il m'a dit, ben si c'est un peu comme la guitare, t'inquiète pas, vas-y. Il m'a un peu expliqué comment ça marchait. J'ai tout de suite joué du luth, évidemment, d'oreille. Et puis il m'a appris le premier morceau et il m'a dit, tu vas pas faire tous les spectacles avec nous, mais tu vas faire toutes les émissions de radio à Constantine.
Et voilà comment, en parallèle de votre scolarité, vous avez joué...
À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer dans l'orchestre de Cheikh Raymond. Il avait donné une fois un spectacle en 1953 à l'Université populaire de Constantine. Et là, j'ai joué en public pour la première fois. Et son sourire m'avait donné du courage parce que j'avais... J'étais très impressionné par lui. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé mon rapport avec le public.
France Musique, Enrico Macias, Enfant de tout pays, Virginie Bloch l'aînée.
عينك بكا وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم دعت حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له عينك بكى وتظهر حليه مشغول البال شافك النوم ذات حياتك بالأمان وحدك محتار تمشي في الشارع وجوال وكل نار تنظر شباكك حالة الانظار وانسى في حبها مقهور
بامينو
وقربها متاملو
بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو
صعيب انت ما تقدر له اضحك واللعب بالمندولينو وسلي بامينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامينو اليوم راك مهني على المندولين تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روح يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشي تلعب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما
À 15 ans, à Constantine, vous écoutiez Dalida. Vous aimiez beaucoup la musique tzigane. Vous accordiez votre guitare comme les tziganes l'accordaient. Et il fallait la réaccorder pour jouer dans l'orchestre de Cher Raymond. C'était pas les mêmes...
C'est-à-dire, au début, j'avais accordé à ma façon pour pouvoir jouer les musiques qu'il m'apprenait. Mais après, pour jouer avec les gypsies, avec les gitans, j'étais obligé d'accorder comme on accorde une guitare normalement, même maintenant. Et pour moi, c'était une découverte. Parce que c'était tout à fait une autre technique. C'est parce que le premier accord que je faisais en jouant la musique avec mon beau-père et mon père, on faisait pas d'accord. On faisait pas d'harmonie. C'était que la mélodie. Mais avec les gypsies, on faisait des accords. Et la façon d'accorder la guitare avec les gypsies me permettait de trouver les accords. Tout ce que je pensais dans ma tête, hop, je le reproduisais sur la guitare.
Bien sûr que ça manque profondément. On n'oublie pas le pays où on est né et évidemment le paysage et puis tout ce que ça comporte.
Qu'est-ce que ça comporte un paysage ?
Je sais pas moi, le paysage, il y a un rapport étroit entre le paysage, la naissance et la vie que l'on mène. Il y a des images qui restent surtout lorsqu'on est gosse et on ne peut pas retrouver exactement le même paysage. On essaye à chaque fois de dire tiens, ça ressemble à. La vallée du Hama, ça ressemble à, aux environs de Bonn, aux environs d'Alger.
Certains visages aussi vous manquent ?
Oui, on a l'habitude de voir une série de visages. quand on a vécu plus de 20 ans dans une ville, il y a des visages qui manquent incontestablement.
Polito, prends Rébé, moi le mineur. Tu te rappelles Solen Sara, la chanson corse ?
Quando penso a Solenzara, cado la scatola, una nostalgia amara, come un suono di chitarra, l'amore macellare. Rivivo le pescatore, si tornano di pescare, e centuri la colori, da bacimi di pittori, chi non le vorrò vista. Già papà lo dico, Julio.
Deux tziganes sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire.
sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischomonaga, monagaras, echras, ischoras, ischomonaga, monagaras.
Enrico Macias, il y a une chanson de Charles Aznavour que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Les deux guitares.
Je l'ai même chantée.
Voilà.
Et une fois pour son anniversaire, pour ses 85 ans, j'avais chanté pour la télévision. Et vous savez qu'il a versé des larmes quand j'ai chanté Les deux guitares devant moi. C'était un homme extraordinaire, Charles Aznavour. Il avait une sensibilité. Et puis il était très paternaliste aussi. Il n'avait pas l'âge d'un père pour moi, mais il avait l'âge d'un grand frère. Il me donnait des bons conseils, toujours. Et quand il m'arrivait des choses un peu difficiles, il me consolait. Et moi, je me rappelle d'une phrase, il m'a dit, tu sais, quand tout va bien, le public n'aime pas trop. Mais quand tout va mal, le public t'aimera plus.
Quand tout va mal, ça veut dire un malheur personnel.
Oui. Quand on souffre de quelque chose, me dit là, le public va t'aider, va te consoler, tu vas avoir du succès. Il me disait ça.
Que vivons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Quelle est la raison d'être ? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent, mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne.
J'étais sourde et j'étais aveugle.
C'est un miracle.
Mais les miracles se produisent tous les jours. C'est ça, au fond, il y a des miracles. Tous les jours, il y a des miracles. Une fois, dans une émission, j'ai entendu dire Maurice Béjart que à force de chercher son âme, on finit par oublier les autres. J'ai réfléchi et je me suis dit non, il n'a pas raison. Parce que si on cherche son âme, finalement, qui c'est qui s'aime vraiment ? On n'aime pas les autres parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Le jour qu'on s'aime vraiment et qu'on se connaît, on ne peut pas ne pas aimer les autres. Donc à chercher son âme, c'est vraiment aider les autres. Parce que les autres ne reçoivent que ce que l'on est vraiment.
Mais vous, Dalida, vous avez besoin d'être aimée ?
J'ai surtout besoin d'aimer. C'est très important, l'amour. Et d'être aimée, ce n'est pas grave. J'ai besoin de comprendre et d'aimer. Ça, c'est très important.
On avait les mêmes idées, là. Il me semble que c'est moi qui parle.
Des êtres de paix, qui recherchent la concorde, l'entente.
Oui,
oui.
Oui, la fraternité. Elle a dit quelque chose de vrai. Elle a dit que quand on n'aime pas les autres, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Ah, j'adorais Dalida, je l'ai connue à Constantine. Elle était venue faire un spectacle, j'étais tout jeune. Et j'ai tenu à la rencontrer pour lui présenter des chansons que j'avais composé. Et puis, elle me dit, je peux pas vous écouter maintenant, parce que j'ai affaire, mais est-ce qu'on peut se revoir un peu plus tard, quelque part ? Je dis oui, à la piscine de Sidi M'Sid. Moi, j'ai été convaincu qu'elle allait jamais venir. J'ai été à la piscine de Sidi M'Sid, pas pour me baigner, hein, pour l'attendre. Et j'étais surpris de la voir. Elle est venue, elle a tenu parole. Et elle m'a dit, quand tu viendras à Paris, viens me voir. Et en fait, depuis ce jour-là, on est devenus très amis. On a fait des émissions ensemble de télé, dont une qui était très réputé qui, avec Maritier Gilbert Carpentier, nous avons chanté en duo Bambino ensemble. C'était très très beau.
Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne sors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Seul dans la rue, je rôde comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, je veux te voir.
Je sais bien que tu m'adores,
Dalida, Dalida.
Et que j'ai des jolis yeux,
Dalida, Dalida. Mais je suis trop jeune encore,
Enrico, Enrico, pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sur ta guitare, mon petit Enrico. Ta musique est plus jolie
que toutes les filles de mon pays.
Et canta, canta de ta voix carine, mon petit Enrico.
Je peux chanter ce que je veux, Dalida. Moi, tu ne me prends jamais au sérieux.
Et pour cause, avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les bambins.
Donc, continuez avec votre jeunesse à Constantine. Vous jouez donc de temps en temps avec l'orchestre de Cher Raymond. Vous faites un séjour de 2 ans à Fontainebleau, à Paris et Fontainebleau, parce que votre père veut absolument que vous ayez le bac.
Non, c'est-à-dire que en Algérie, à l'époque, il n'y avait plus de professeurs. C'était la guerre. Et mon père me dit, je vais t'envoyer au... Enfin, c'était aussi, moi, mon désir de partir dans un lycée. J'ai atterri au lycée de Fontainebleau, comme pensionnaire. Et j'ai passé 2 ans. La première année, très difficile. Et la deuxième année, j'étais la vedette de tout le lycée. Mais pas pour chanter, mais la vedette de... J'avais que des copains, quoi.
Première année très difficile, parce que vous êtes l'étranger.
Oui, j'ai un peu souffert de ça. C'est pour ça que... je vais même vous raconter une anecdote. C'est que la première... Quand je suis arrivé, c'était le moment de la promenade. Et il y avait un élève qui a voulu sympathiser avec moi. On marchait côte à côte dans la forêt de Fontainebleau. Et il me dit... Mais alors, dès la première rencontre avec un élève, il me dit... Il m'a pris pour un musulman, parce que j'étais bronzé, les cheveux frisés, tout ça. Il me dit, j'aime toutes les races, sauf les juifs. Ça a été... Je me suis battu avec lui, évidemment. J'ai été convoqué par le proviseur. J'ai cru que j'allais retourner en Algérie tout de suite, quoi. Et je suis tombé sur quelqu'un de très intelligent, le proviseur du lycée. Il m'a dit, fais attention, écoute bien ce que je vais te dire, travaille bien et montre-leur qui tu es. Voilà. C'est-à-dire que Il s'est mis de mon côté et puis il m'a pas puni. Voilà.
On s'en allait, chassé par le cyclone, et sur la route, on nous avait jetés. Mais quand on fut près de l'île du Rhône, on a compris qu'on était arrivé, on a compris. On était arrivé. L'île du Rhône semblait nous attendre. L'île sauvage d'où s'allons oublier. On a percé sa glaise humide et tendre pour y planter nos tentes et nos pommiers. Pour y planter nos tentes et nos pommiers. Que c'était bon d'arracher les poussailles. Nos mains faisaient reculer la forêt. Quand notre terre nous ouvrait ses entrailles. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Êtes-vous fou, nous disait le village. Connaissez-vous le Rhône de chez nous? L'avez-vous vu quand il est par l'orage? Gros de la Saône et qu'il pleut sur le Ventoux. L'avez-vous vu dans ses grandes colères? Plus dangereux qu'un archange brutal. Tous les 100 ans, la chose est légendaire. Quatre ou 5 fois, il nous fait bien du mal. On a gardé les amarres à nos barques. Car si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle. Le Sirocco, n'en laissez pas autant. Le Sirocco, n'en laissez pas autant. Regardez-la, c'est notre île cantique. C'est un poème, un bouquet de couleurs. C'est notre terre et c'est notre Amérique. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. Car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant, tant besoin de racines. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées.
Quand vous retournez en Algérie, à Constantine, c'est encore la guerre d'Algérie, donc vous y retournez en 59. Vous n'imaginez pas que bientôt vous allez retourner à Paris définitivement?
Ah non, je n'imaginais pas, parce que j'étais pion dans un collège pour étudier la musique. Et puis on est venu me chercher pour être instituteur parce qu'il manquait des cadres.
Comment ça s'est passé, cette expérience d'instituteur?
Alors, c'est une belle expérience. C'était un peu dur parce que c'était à 60 km de Constantine. Et j'étais obligé de me lever tous les matins à 4h, 5h du matin pour faire de l'autostop. Parce qu'il n'y avait aucun moyen de locomotion. Sinon, j'étais bloqué à Châteaudun-du-Rhumel. Mais moi, parallèlement, je chantais dans les cabarets. Je faisais l'école buissonnière de l'orchestre de Cheikh Raymond et de mon papa. Et donc, j'étais obligé de rentrer à Constantine tous les soirs, en fin de soirée, quoi. Puis j'allais au cabaret, je chantais.
Vous dormiez très peu.
Et le matin, j'étais obligé de me lever de bonne heure pour faire de l'autostop, pour rejoindre mon poste comme instituteur. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Pierre Elkabbach. Et Jean-Pierre Elkabbach me prenait presque tous les jours en autostop. Et il l'a raconté lui-même dans son livre et tout ça.
Est-ce que vous sentiez, Enrico Macias, que le danger montait et la tension montait? Est-ce des rumeurs couraient? Est-ce que vous vous sentiez en danger? Est-ce que vous saviez que Cheikh Raymond était en danger?
Oui, il y avait bien sûr des rumeurs et une sorte de complot qui commençait à sourdir contre Tonton Raymond. Et moi, je me bagarrais tout le temps. Je disais, parce que des rumeurs comme quoi il était parti en Israël, comme quoi il faisait partie de l'OAS, ce qui n'était pas vrai. Tonton Raymond était un homme pacifique. Il ne faisait pas de politique. Pour vous donner un exemple, c'était un des rares juifs de Constantine qui lisait Le Monde. C'était quelque chose d'inouï, quoi, oui, à l'époque. Moi, je me suis élevé contre ça, et il était parti en France, avec mon père. Et d'un coup, il revient.
En moi, 61. Ce jour-là,
oui. Et je lui dis, mais pourquoi tu es revenu? Moi, je savais qu'il était en danger parce que je sentais que les rumeurs couraient bon train. Et j'avais peur pour lui. Je lui dis, mais pourquoi tu es revenu? Et il m'a dit une phrase, la dernière phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit, je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Voilà, les derniers mots.
Et il a été assassiné alors qu'il marchait dans la rue avec l'une de ses filles.
Deux jours après, ou même un jour après, je crois, que cette entrevue qu'on a eue, il a été tué en sortant du magasin. Voilà.
Merci Enrico Macias. Nous allons continuer de parler de Charles Raymond dans le deuxième volet de
D'accord.
cette série.
Merci.
Les rues, les jours de marché, piquantes et bariolées, parfumées d'orange et de piment. Un régiment d'oliviers bordé de citronniers, avec une maison devant. Mes premières joies du cœur devant un champ de fleurs sont marquées de roses et d'amitié. Quand j'évoque ces instants, je sens que mon accent revient comme il était avant. On emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. Quand, pour vivre plus tranquille, les arcades tamisées où les petits cafés semblent s'allonger sur les trottoirs. La vieille maison de pierre, le coin de cimetière où dort notre page d'histoire. Les couleurs de la montagne sous le ciel qui s'enflamme par le feu tout proche du désert. C'est autant de souvenirs qu'on ne peut pas détruire. Ils nous ont fait souffrir. On emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. Quand pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner.
C'était Enrico Macias, l'enfant de tout pays. Une émission de Virginie Bloch-Liné réalisée par Pierre Villers.
N'importe où, l'accent nous suit partout, comme une ombre doublée d'un miroir.
Mixage Manon Houssin, prise de son Éric Boisset. Vous pouvez retrouver les titres des chansons sur le site de l'émission. La semaine prochaine, deuxième volet, Paris, tu m'as pris dans tes bras.
France Musique.